VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du 13 novembre 2023. Avec vous, Eric Manirakidza, voici le sommaire. Au Mali, nouveau combat entre armées et rebelles dans la région de Kidal. Au Burkina Faso, l'Union européenne appelle de Ouagadougou à faire toute la lumière sur un massacre de civils. Au Tchad, l'accord conclu à Kinshasa entre le gouvernement et les transformateurs suscite des critiques sur l'amnistie pour les acteurs du 20 octobre.
Sommes-nous aujourd'hui dans la droite ligne de la justice et de l'égalité? Pourtant, l'une des qualités d'un dirigeant devrait être l'amour et la rigueur intransigeante du respect pour la justice.
Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre Guillaume Soro annonce mettre fin à son exil. Controverse sur la politique de contrôle des naissances au Bénin, les leaders religieux dénoncent une atteinte à la volonté divine.
Je le dis haut et fort, c'est l'occasion d'alerter le peuple béninois qu'il doit faire tout pour ne pas se laisser embarquer par un vent qui n'est pas le nôtre.
L'Union européenne, atterrée par les violences au Soudan, soupçonne un nettoyage ethnique. Le ministre français des armées appelle à protéger les Palestiniens de Gaza pour éviter une escalade régionale. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Mali, l'armée et la rébellion Touareg se sont livrés à de nouveaux combats hier dimanche dans la région de Kidal. Les affrontements ont commencé samedi alors que les FAMA se rapprochaient de la ville stratégique. Yacouba Ouedraogo.
Chacun dit avoir pris l'avantage sur l'autre au cours de ces affrontements, localisés par différentes sources à quelques dizaines de kilomètres de Kidal. Un élu local a fait état de tirs de roquettes près de la ville. Un autre a dit avoir vu des avions de l'armée voler en direction de Kidal et des soldats quitter Anéfis avec des armes lourdes à environ 110 kilomètres au sud dimanche matin. L'armée qui s'est mise en mouvement en direction de Kidal à la fin de la semaine a déclaré sur X avoir enregistré des avancées très significatives grâce à l'engagement de moyens aériens et terrestres. Elle a assuré avoir dispersé les forces adverses et souligné que les opérations continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et ses environs. Le cadre stratégique permanent, alliance de groupes armés à dominante Touareg, a dit de son côté sur les réseaux sociaux avoir piégé les soldats maliens et les mercenaires du groupe privé russe Wagner sur un plateau à 25 km de Kidal. La collecte de l'information est compliquée par l'impossibilité d'accéder au terrain pour des raisons d'insécurité et d'éloignement.
Les États-Unis et l'Union européenne appellent les militaires au pouvoir au Burkina Faso à enquêter sur un massacre de civils qui aurait fait une centaine de morts le 6 novembre. Abdourahmane Dieng.
Près d'une centaine de civils, dont des femmes et des enfants, auraient été tués lors d'un massacre dans le village de Zawongo, dans la région du centre-nord du Burkina Faso, selon un communiqué de l'Union européenne qui appelle à faire toute la lumière sur les circonstances de ces tueries afin d'en déterminer les responsabilités. La responsable des affaires africaines au département d'État américain, Molly Fee, a déclaré pour sa part vendredi sur X être choquée et attristée par la nouvelle du massacre. Le gouvernement américain condamne cette attaque dans les termes les plus forts, a-t-elle déclaré, appelant également les autorités burkinabées à enquêter. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur le massacre. Une communication suivra en temps opportun, a affirmé une source sécuritaire burkinabée. Il est difficile d'avancer des chiffres car les corps ont été inhumés sans véritable constat, a déclaré un ressortissant de la zone. Le massacre a eu lieu 2 jours après des combats entre des forces de sécurité et des terroristes. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait plus de 17 000 morts. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées.
L'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État, a affirmé dimanche soir qu'il mettait fin à son exil entamé en 2019. Il n'a pas précisé de date d'un éventuel retour. Nathalie Barge.
Dans une allocution de 5 minutes publiée sur son compte X, Guillaume Soro dit qu'il n'ira pas plus loin dans son exil, refuser d'être fugitif, n'être coupable d'aucun forfait et vouloir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Monsieur Soro affirme qu'on a tenté de l'arrêter à l'aéroport d'Istanbul le 3 novembre pour l'extrader en Côte d'Ivoire. Il précise avoir été en France, en Belgique, à Dubaï et jusqu'aux confins du continent asiatique ces dernières années. Accusé d'avoir fomenté une insurrection visant à renverser le régime du président Alassane Ouattara en 2019, Guillaume Soro a été condamné en 2021 à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. En 2020, il avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, il avait aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011 face au président sortant Laurent Gbagbo qui refusait d'admettre sa défaite. Guillaume Soro était devenu le premier chef du gouvernement de M. Ouattara, puis président de l'Assemblée nationale en 2012, avant une rupture début 2019. Il avait alors affirmé qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la présidentielle en 2025.
Le procès du massacre de septembre 2009 en Guinée reprend ce lundi, 9 jours après l'opération Commando qui a extrait de prison 4 des accusés, dont Moussa Dadis Camara qui est retourné en prison après, a dit un porte-parole de l'organisation du procès. Mais le colonel Claude Pivi est toujours en cavale et sera absent aujourd'hui, à moins d'être capturé d'ici là. Le procès a été suspendu pendant 3 semaines. D'abord à la demande du parquet qui réclamait le temps de préparer le début des auditions de témoins, puis en raison d'une grève des avocats, sans lien avec le procès ou les événements du 4 novembre. L'Union européenne s'est dit atterrée face à ce qu'elle qualifie de témoignages crédibles faisant état de plus de 1000 morts en 3 jours au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Lionel Runanilagahim.
Les dernières atrocités semblent relever d'une campagne de nettoyage ethnique plus large menée par les forces de soutien rapide avec l'objectif d'éradiquer du Darfour Ouest la tribu non-arabe massalite, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dans un communiqué publié dimanche. Elles viennent s'ajouter à une première vague de violences d'ampleur en juin, a-t-il précisé. Des témoins crédibles font état de plus de 1000 membres de la tribu massalite tués à Ardamata à un peu plus de 2 jours lors d'attaques d'ampleur menées par le FSR et les milices affiliées, écrit l'UE. Le ACR a récemment fait état de plus de 800 personnes qui auraient été tuées par des groupes armés à Ardamata, où près de 100 abris de déplacés ont été rasés. L'UE travaille avec la Cour pénale internationale pour établir et documenter les violations des droits humains afin de s'assurer que leurs auteurs en rendent compte, indique le communiqué. La guerre entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts depuis le 15 avril et a déplacé plus de 4,8 millions de personnes à l'intérieur du Soudan et 1,2 million vers les pays voisins, selon le HCR.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sénateur américain Tim Scott s'est retiré dimanche soir de la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, devenant le dernier rival en date de Donald Trump à jeter l'éponge. Ce sénateur de Caroline du Sud, qui rêvait ouvertement de devenir le premier président républicain noir de l'histoire des États-Unis, n'a pas réussi à faire véritablement décoller sa campagne pour se hisser dans le peloton de tête des aspirants républicains. Des milliers de Palestiniens espèrent ce lundi quitter le site de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, sans eau ni électricité depuis quelques jours et pris au piège de combat entre le Hamas et l'armée israélienne. En parallèle, le premier ministre israélien a évoqué dimanche dans un entretien à la chaîne américaine NBC l'éventualité d'un accord pour libérer certains des quelques 240 otages enlevés par le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, une condition selon lui à tout cesser le feu. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré dimanche sur CBS que les États-Unis s'opposaient au combat dans les hôpitaux. Les États-Unis ne veulent pas voir de combat armé dans les hôpitaux où des personnes innocentes, des patients recevant des soins médicaux, sont pris dans des tirs croisés, a-t-il déclaré. Nous avons eu des discussions énergiques avec les forces de défense israéliennes là-dessus. La question humanitaire et de la protection de la population civile palestinienne de Gaza est absolument clé et appelle mesure et proportionnalité de la part d'Israël, a estimé dimanche le ministre français des armées. La manière dont Israël va gérer la suite du conflit aura un impact sur l'environnement de sécurité dans lequel le Proche-Orient va se trouver dans les 10 ou 15 années à venir. Ou 15 ans à venir, a poursuivi le ministre français. Le groupe palestinien Hamas doit être mis hors d'état de nuire, mais la manière dont les populations civiles sont traitées peut avoir un impact sur la maîtrise de l'escalade globale, a-t-il insisté. Les ministres de la Défense des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon ont indiqué dimanche être convenus d'activer dès décembre une opération de partage de données. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par John Lyndon.
Le Fonds saoudien pour le développement signera des accords d'une valeur de 2 milliards de riyals, soit l'équivalent d'environ 533 millions de dollars avec des pays africains. L'annonce, relayée par l'agence Ecofin, a été faite par le ministre saoudien des Finances, Mohamed Al-Jatan, à l'ouverture de la conférence économique saoudo-arabo-africaine qui a démarré jeudi à Riyad. Le ministre saoudien de l'investissement, Khalil Al-Falil, a de son côté indiqué que le fonds souverain du Royaume d'Arabie saoudite, qui dispose de plus de 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion, prévoit également d'annoncer des investissements significatifs en Afrique. Le Kenya va rembourser par anticipation une partie de son eurobond de 2 milliards de dollars qui arrivera à échéance en juin 2024. Le président kényan William Ruto en a fait l'annonce après avoir obtenu des promesses de financement de la part de plusieurs bailleurs de fonds. Nous n'hésiterons pas à relever encore les taux directeurs si nécessaire face à la forte inflation, a averti jeudi le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell. La Fed s'engage à parvenir à une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2%, a-t-il dit lors d'une conférence au FMI à Washington.
Sans transition, nous passons à votre page des sports avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Eric et bonjour à tous.
Riche actualité, football ce matin avec d'abord la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie et le Burkina Faso tombe d'entrée.
Oui, et les étalons cadets, pour leur premier match, se sont largement inclinés devant la France, score 3-0. Ils devront redresser impérativement la barre mercredi face aux États-Unis. Mais en attendant aujourd'hui, le Mali et le Maroc, qui ont réussi leur entrée, vont essayer de signer leur seconde victoire face respectivement à l'Espagne et à l'Équateur.
Sur le continent, le Mamelodi Sundowns remporte la première ligue africaine de football.
Grâce à un match retour complètement maîtrisé contre le Wydad de Casablanca, les Sud-Africains, battus 2-1 à l'aller, n'ont fait qu'une bouchée des Marocains, score 2-0. Ils remportent donc l'édition inaugurale de cette compétition à domicile, ajoutant un troisième titre africain à leur palmarès après la Ligue des champions de 2016 et la Supercoupe d'Afrique en 2017.
Notre ligue se poursuit à Abidjan, Côte d'Ivoire, la Ligue des champions féminines, et on connaît les affiches des demi-finales.
Tout à fait, Eric. Et les deux finalistes de la dernière édition vont s'affronter pour la première affiche de cette demi-finale. Les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns contre les Marocaines d'Asfar. Le club du Rabat, tenant du titre, a validé sa qualification après avoir battu les Maliennes de l'AS Mandé 2-0. L'autre demi-finale mettra aux prises les Ghanéens d'Ampem Dankoa, vainqueurs 3-1 des Équato-Guinéennes d'Ourakanès, au second club marocain, le Sporting Club de Casablanca. Les deux matchs auront lieu mercredi prochain.
Toujours chez les dames, Élisée, le troisième tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans s'est poursuivi hier dimanche.
Et deux matchs ont eu lieu avec la grande performance du Ghana, victorieux en déplacement 6-1 en Eswatini. En revanche, le Nigeria a été accroché par la Tanzanie, score 1-0.
C'était les sports avec Élisée Sonia.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mandela Kidza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, l'accord signé en octobre dernier entre le gouvernement de transition et le président du parti des transformateurs à Kinshasa en RDC, avec la médiation du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, suscite des réactions, en particulier concernant l'amnistie générale. Une partie de l'opposition remet en question l'idée que les acteurs civils et militaires impliqués dans les tueries du 20 octobre puissent bénéficier d'une amnistie sans que justice soit rendue aux victimes. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Pour le constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice, professeur Ahmad Mahamat Hassan, cette loi encourage l'impunité.
Cette loi d'amnistie ferme la porte de la recherche de la vérité et de la justice. Je dis bien vérité et justice. Elle efface l'infraction existante et flagrante qui a été commise. Des crimes d'ailleurs et d'assassinat et des crimes d'État. Et ça, c'est quelque chose de très grave.
Ce projet de loi portant amnistie générale pour les faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022 a été adopté par le Conseil des ministres du 8 novembre et sera soumis en procédure d'urgence au Conseil national de transition. Max Kamkoui, membre du GCAP, un regroupement de concertation des acteurs politiques, rejette en bloc ce projet de loi. Il qualifie cette clause de haute trahison.
Sommes-nous aujourd'hui dans la droite ligne de la justice et de l'égalité? Pourtant, l'une des qualités d'un dirigeant devrait être l'amour et la rigueur intransigeante du respect pour la justice. Mais si c'est pour après conclure avec le gouvernement de transition que les criminels doivent être amnistiés et qu'on peut passer en perte et profit le massacre ignoble du 20 octobre, ceci est plus qu'une forfaiture, mais une haute trahison. Pour notre part, nous réfutons énergiquement l'option d'amnistie à accorder aux acteurs civils et militaires impliqués dans les événements du 20 octobre.
Cette loi d'amnistie permettra à nombre de militants arrêtés injustement, condamnés puis graciés de jouir pleinement de leurs droits civiques et politiques, a déclaré Dr. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs. Selon lui, la loi d'amnistie ne peut pas éteindre l'action judiciaire enclenchée contre les bourreaux.
La signature de cet accord, c'est d'abord rendre justice, y compris à nos militants. Des centaines de mes militants ont été arbitrairement condamnés. Mais la grâce présidentielle qui avait été accordée ne leur restitue pas leurs droits politiques en tant que dirigeants d'un parti. Il me semblait important que ces braves parmi les braves qui étaient sortis au nom de la justice et de l'égalité, qui ont été condamnés dans une procédure expéditive, soient restaurés dans leurs droits. Et donc, ma ceinture n'arrête ni la justice, n'interdit ni les poursuites contre des crimes contre l'humanité qui seraient commises par les uns et les autres, y compris lors des différents événements tragiques qu'a connu notre pays.
L'ancien ministre de la Justice, professeur Ahmad Mahamat Hassan, ne partage pas cet avis.
Une loi d'amnistie est un pardon légal qui efface l'existence même des faits. Il n'y a plus d'infraction. Et dans cette affaire des événements du 20 octobre, il faut bien situer les responsabilités. Les transformateurs sont les victimes, ce n'est pas les auteurs. Il y a eu crime d'État, comme certaines personnalités l'avaient confirmé. Et ça, cette loi d'amnistie n'a pas été bien réfléchie. Pourtant, il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place et qui n'a pas encore produit ses conclusions. Et sans justice, il ne peut y avoir ni réconciliation de cœur et des esprits, parce qu'il y aura encore des mères en larmes qui cherchent à savoir le sort réservé à leurs enfants disparus ou repris sous le lit de leur maman par les forces de l'ordre à l'époque.
Le premier ministre tchadien avait qualifié d'insurrection les événements du 20 octobre 2022. Le président de transition, lui, avait parlé de tentative de coup d'État. André Kodomajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Cameroun, les explications du gouvernement sont attendues devant les membres du Parlement sur les grandes questions de l'heure. Les députés souhaitent des éclaircissements sur la gouvernance, la sécurité, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et les actions entreprises pour calmer les tensions sociales. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les membres du Parlement se préoccupent de la situation sécuritaire en zone anglophone. Le 6 novembre dernier, 25 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux séparatistes dans la région du Sud-Ouest. Tekou Tangyu Tekou, député du département de la Manyou, où le drame s'est produit.
Au cours de cette session, les députés que nous sommes allons demander aux membres du gouvernement en charge de la défense et de la sécurité quelles sont les stratégies qui ont été arrêtées pour sécuriser les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest parce que nous observons une résurgence des attaques terroristes. Ceci doit s'arrêter pour que la population retrouve la confiance et vive dans la paix.
À l'ouverture de la session parlementaire, certains députés, à l'instar de Cabral Libi, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, ont fustigé le silence du président de l'Assemblée nationale sur les problèmes de l'heure. Cabral Libi, député du PCRN.
Comment ça se fait qu'il ait été amnésique sur la situation des enseignants au Cameroun, OTS? Ça prouve que c'est un discours qui a été rédigé précipitamment et à la va-vite, mais qui passe complètement à côté des véritables problèmes des Camerounais.
Le ministre des Finances apporte quelques explications sur le dossier des enseignants, dont certains sont en grève depuis le début de l'année scolaire, en septembre dernier. Louis-Paul Moutazeu, ministre des Finances.
Nous ne pouvons pas dire que les problèmes des enseignants, nous les mettons de côté. Mais il y a des réalités et deux réalités s'imposent. C'est que ce qui a été demandé de faire, nous l'avons fait. Et nous continuons de le faire. Et deux, nous estimons qu'il peut y avoir des difficultés ponctuelles qui peuvent nous amener à moduler. C'est pour ça que même si les instructions que je vais donner à mes collaborateurs visent à augmenter la quotité mensuelle qui est affectée au paiement, je ne peux pas dire c'est telle somme exactement parce que là aussi ce sera modulable.
Pour Ndion Evaritus Ndim, député du département de Boyo dans la région du Nord-Ouest en zone anglophone, le gouvernement ne convainc pas encore sur la bonne exécution du budget.
C'est à travers la bonne exécution du budget que l'on peut mettre fin à l'assassinat des populations. C'est à travers le budget qu'on est supposé mettre fin aux éboulements de terrain, aux accidents de circulation, aux épidémies telles que le choléra ou les maladies comme le paludisme. C'est à travers le budget qu'on peut apporter l'eau potable aux Camerounais. Et ce qui détruit ce pays, ce n'est pas l'absence des moyens, mais c'est la mauvaise utilisation des modestes moyens dont nous disposons.
Lors du discours de fin d'année, le président Paul Biya avait, par exemple, annoncé le démarrage de grands chantiers dans le secteur minier. Où en est-on? Fougalatus, ministre des Mines, par intérim.
Le projet Balam, qui a obtenu certaines mesures de restructuration, c'est la même chose avec le projet Jurique. On peut aussi parler du projet des mines, des colonies, porté par la société Codias, qui a rentré en production effective.
La session parlementaire du mois de novembre est également destinée à l'examen du projet de budget 2024 de l'État. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Sénégal, après une série de drames en mer, le président Macky Sall appelle à des mesures d'urgence pour endiguer le fléau de l'émigration clandestine. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État sénégalais annonce des mesures pour contrer ce phénomène. Cependant, pourquoi le pays peine-t-il à dissuader des milliers de jeunes de rallier l'Espagne par la mer? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Wahani Johnson Sambou.
Bien cadrer le débat pour ne pas se tromper, parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave.
La preuve de la gravité de l'heure, le décompte macabre qui ne cesse d'augmenter. Chaque semaine, des dizaines de décès de migrants clandestins sont déclarés au Sénégal. Une tragédie sans fin qui touche une jeunesse qui se dit étranglée par le désespoir. Saliou Faye a tenté de quitter le Sénégal par la mer. On ne peut pas, en tant que jeune, rester ici sans travailler alors que d'autres pays en ont et que des jeunes comme nous en bénéficient et reviennent nous le montrer. Personnellement, c'est la raison qui m'a poussé à vouloir partir. L'État doit comprendre qu'il a une jeunesse qui veut travailler, mais elle n'a pas ce qu'il lui faut. Aveuglés par le rêve occidental, ces jeunes ne voient d'autre solution que le départ au péril de leur vie. Mais à la demande du président Macky Sall qui veut une implication de l'armée, des mesures d'urgence sont annoncées. Une bonne nouvelle selon Abdoulaye Niang, professeur titulaire des universités en sociologie à la retraite.
Ces mesures-là prises par l'État peuvent être de bonnes mesures s'ils sont vraiment bien appliquées. Parce qu'il faut surveiller les frontières. Quand on a surveillé les frontières du temps de Frontex, l'immigration clandestine avait reculé. Mais quand la surveillance a cessé, que l'immigration clandestine maritime a repris de plus belle. Donc une surveillance stricte, une surveillance bien serrée peut effectivement permettre de réduire ce phénomène-là.
Mais beaucoup de Sénégalais restent sceptiques quant à l'efficacité de la solution militaro-policière. Pour Boubacar Sey, président de l'ONG Horizons sans frontières, spécialisé dans les questions migratoires, il faut bien plus pour dissuader les jeunes de prendre les pirogues.
La solution ne peut être ni policière ni militaire. Il faut que l'État du Sénégal se remette en cause parce que le phénomène a toujours existé depuis 2006. Donc aujourd'hui, il faudra s'attaquer à la cause principale pour juguler le fléau. Il faut s'attaquer au problème de la mauvaise gouvernance qui obstrue les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables, le chômage endémique chronique et structurel des jeunes, les inégalités sociales, sans oublier cette nouvelle donne dans cette recrudescence avec l'arrivée des pêcheurs qui se disent aujourd'hui écrasés par la pêche industrielle et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
En septembre, l'ONU estimait à 186 000 le nombre de migrants clandestins, dont beaucoup d'Africains arrivés dans le sud de l'Europe. Plus de 2500 autres sont morts ou portés disparus. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Bénin, la proposition d'une politique de contrôle des naissances avancée par le président Patrice Talon lors d'un entretien accordé à un média international continue d'agiter les différents cercles de réflexion. Cette fois, ce sont les leaders religieux de toute tendance qui s'opposent à ce qu'ils qualifient de complot contre la volonté divine. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
La poussée exponentielle de la démographie pénalise le développement des pays africains. Une réflexion menée par le chef de l'État béninois qui propose la réforme des naissances de manière douce avec la pédagogie et des mesures incitatives. Une pilule difficile à avaler selon la conférence épiscopale qui appelle à des débats profonds avant la prise d'une décision qui engage tout le peuple béninois. Monseigneur François Nyonrosou est le président de la commission épiscopale pour les laïcs et la famille. Pour lui, l'Église catholique entend participer au débat.
Une contribution qui part des analyses et qui prend en compte les réalités sociales et culturelles de chez nous, faire des analyses critiques, constructives, pour voir ce qu'il faut recueillir des débats menés ici et là, les analysant, aboutir à une réinterprétation, une réappropriation des apports des uns et des autres, pour voir en quel sens nous pouvons, comme citoyens et surtout comme membres de l'Église, offrir au terme de notre débat des résultats qui assurent à la fois les requêtes du gouvernement, les besoin de notre pays et surtout qui assume pour accueillir la lumière de l'Évangile.
Pour certains dignitaires des religions endogènes, il n'y a de richesse que d'hommes.
Les discours officiels pour trouver la solution parler d'un hypothétique développement, je dis, ces discours-là sont creux.
Nous, les Africains, c'est pratiquement notre force. Et c'est juste là. On n'a pas compris que c'est notre force. Moi, je le dis haut et fort, c'est l'occasion d'alerter le peuple béninois qu'il doit faire tout pour ne pas se laisser embarquer par un vent qui n'est pas le nôtre. Faisons très attention.
Si certains sont pour le débat, d'autres le rejettent catégoriquement et pensent qu'il s'agit d'une perte de temps et une dilapidation des ressources déjà insuffisantes. Jean Zonon est le vice-président de l'Institut international de recherche et de formation, INIREF. Il estime que le gouvernement laisse de côté les questions essentielles.
Les questions qui se posent au Bénin ne sont posent pas les problèmes de population, de surpeuplement, mais des obstacles réels à son développement qui constituent le pillage de nos ressources, la question de l'école qui formante la jeunesse, pas pour la résolution de nos problèmes, mais visée à l'extérieur et qui crée le chômage, la question de l'imitation des naissances, c'est arbitraire. Il recommande même que le gouvernement ne gaspille pas les sous pour aller organiser cette assise-là.
Pour Christophe Okou, auteur de l'essai politique La guerre au cœur de la pauvreté, le gouvernement doit planifier sa réflexion qui semble confuse.
Ce qu'on nous demande, c'est de ne pas faire les bébés, mais de produire toujours plus pour ce qui est demandé par le gros ventre, le marché. Mais c'est impossible ça. On dit ne pas faire les bébés, la main d'œuvre va venir d'où? Cela veut dire dire que nous devenons des proies et nous perfectionnons notre dépendance. Si l'Occident garde son niveau de vie, nous, on doit payer la partie ici.
Mais selon le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'un projet qui prend non seulement en compte les besoins de la génération actuelle, mais également ceux de celle à venir. De Cotonou, ce n'est plus à dans les pouvoirs africains.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manela Kiza à son micro. La réalisation et la mise en onde de Lionel Nanila Gahima. Un grand merci à l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.